dans la même assemblée à Toulouse. Nous avons fréquenté les mêmes serviteurs de Dieu en ce temps-là. Et comme il vous l'a précisé, je suis en retraite active depuis 20 ans. Ben oui, 20 ans. Alors, comme je sais que vous êtes curieux, je vais vous renseigner. Je suis né le 28 avril 1935. Je suis marié avec la même femme depuis 53 ans. Ben oui, c'est pas de ma faute. Dieu m'a fait la grâce d'une moitié excellente. C'est en 1936 que ma grand-mère, qui habitait Toulon, est allée sur une place publique et là, elle a entendu l'Évangile prêché par l'armée du salut. Et la grand-mère s'est convertie ce jour-là, à cette réunion. Elle a donné son cœur au Seigneur. Quelque temps plus tard, Douglas Scott, arrivé de Marseille à Toulon, et a ouvert les premières missions d'évangélisation. Et la grand-mère convertie est venue assister aux réunions. Et elle a entendu l'Évangile qui était prêché. Elle ne s'est pas reconvertie, non. Mais elle a compris que dans le message prêché par Douglas Scott, il y avait un plus. Et elle s'est inscrite pour être baptisée par immersion. Elle a fait partie du premier service de baptême. Et elle est morte à 93 ans, en 1982. Ce qui veut dire, en 1936, j'étais little, tout petit. J'avais un an. Ce qui veut dire que depuis ma petite enfance, toute petite, je n'ai entendu que l'Évangile. Alléluia ! Que l'Évangile ! Oui, je bénis Dieu pour des parents qui m'ont apporté la vérité de Dieu. Pas n'importe quoi, mais la vérité de Dieu. La parole et la vérité. Et s'il y a, et je sais qu'il y en a dans l'auditoire, des enfants de chrétiens rebelles et tordus certainement, comme j'étais à l'époque. Il y a deux choses que les enfants de chrétiens savent. Deux choses. La première, c'est que Dieu existe. Ça, c'est clair. Il n'y a pas un enfant de chrétien ici qui peut venir et contester ça. Je lui dirais, tu es un fief et menteur. Tu sais que Dieu existe, première chose. Et deuxième chose, il sait que ce livre-là, vous voyez, ce livre. Le mien, il est un peu vieux, c'est la Bible de mon père d'ailleurs. Je cherchais des Bibles version seconde, parallèle au milieu, vous voyez. C'est très rare aujourd'hui. Il sait que ce livre, c'est le livre de Dieu. Amen. Et ça, c'est formidable. Ça, c'est merveilleux, ça, c'est magnifique. Alors, bien évidemment, vous allez dire, mais comment ça s'est passé pour la conversion d'un enfant de chrétien, comme les autres? À la différence que j'étais venu assister dans un camp de jeunesse. Et dans ce camp de jeunesse, il y avait des serviteurs de Dieu. Il y avait Marcel Roux, il y avait Roger Copin, et ils étaient au premier rang, j'étais presque assis entre les deux. Et là, dans ce camp de jeunesse, il y avait, disons, une quarantaine de garçons et de filles, et sur les 40, il y en avait 35, 36 au moins, qui étaient convertis. Et il y avait quelques tordus comme moi, quelques rebelles. Pardon, Seigneur, pour cette époque, qui était venue pour passer le temps. Mais voilà que cette soirée a été particulière. C'est que d'un coup d'un seul, l'Esprit de Dieu est tombé sur ces jeunes. Ils étaient baptisés de l'Esprit, exerçaient les dons spirituels, et tout à coup, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Et alors j'entendais ces jeunes qui louaient Dieu. Ils étaient heureux, ils étaient au ciel, ils chantaient en langue. C'était formidable, extraordinaire, mais cette présence de Dieu m'est devenue insupportable. Insupportable. Alors j'ai dit, dans ma bêtise, dans mon orgueil, dans ma méchanceté, j'ai dit, il y a tellement de choses qu'on dit, mais il y a ce que Dieu dit, et il y a ce que Dieu fait. Et à un moment donné, j'ai dit, je vais sortir. Je vais sortir. J'ai dit, je vais sortir. Et quand j'ai voulu lever mon derrière de la chaise, eh oui, il fallait que je me lève. Eh bien, mes amis, je n'ai pas pu. Alors là, ça m'a fait tout drôle. Oh, j'ai pas senti un attouchement physique particulier. Non, 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 mais comme une force, une puissance qui me collait sur la chaise. Alors, je me suis dit, très bien. Dans quelques instants, je sortirai. Alors là, chers amis, moi je dis que Dieu est têtu quelque part et chez lui, c'est pas un défaut. Quand j'ai voulu me relever, au bout de 5 minutes, j'ai pas pu. Il est têtu, le Seigneur. Ben c'est bien. Quoi qu'il aurait pu me laisser sortir. Il aurait pu. Il aurait pu me laisser sortir et je ne serais peut-être pas ici ce matin. Mais Dieu m'a laissé sur la chaise. Et pendant 2 heures dans l'ange, j'ai subi cette puissance de Dieu. Et quand, au bout de ces 2 heures, la Shekina s'est relevée, mon cœur était comme un fromage au four. Et j'avais vraiment fondu. J'étais cuit. Mais alors cuit, complètement cuit. Je veux dire, mais il est barjo, ce pasteur. Non, pas du tout, je vous explique. Et je suis sorti, oui. Avec la permission de Dieu. Et je suis allé dans la nature, pas regarder les étoiles. Je ne sais même pas s'il y en avait. Mais pour pleurer sur ma bêtise, sur ma méchanceté, sur mon orgueil, je suis allé pleurer. On appelle ça la conviction de péché. Et je prêche ce matin qu'il est impossible d'être un chrétien si on n'a pas vécu cette conviction de péché, c'est-à-dire le fait que l'on se sent si misérable. Parce que ça, on ne peut pas le sentir si on n'est pas convaincu de péché. Quand tu te regardes à la glace, Marcel, tu te dis, ben, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus magnifique. Mais non, mais non, mais non. L'Esprit de Dieu nous convainc et nous fait pleurer sur ce que nous sommes. Mais en même temps que l'Esprit nous convainc de péché, il se passe quelque chose de merveilleux, c'est qu'on est environné de l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est la conviction de ces deux puissances. Et de cette conviction et de cet amour de Dieu qui fait qu'on sort de là tout neuf. Ben oui, un chrétien, c'est pas un pécheur amélioré. Ça, c'est bon pour la chicorée. Non, 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 un chrétien, c'est un chrétien transformé. Béni soit Dieu qui est devenu, par la grâce de Dieu, une nouvelle créature. Alléluia! Ce qui ne veut pas dire que nous sommes parfaits. Bien que quand Dieu nous regarde par Jésus, il nous voit parfaits. Mais dis-moi, quel est celui ce matin ou celle qui veut se lever ici et dire, moi je suis parfait. Allez, lève-toi. Et on va t'observer. Non. Merci pour l'œuvre que tu as commencée dans nos cœurs, Seigneur. Et cette œuvre que tu as commencée, c'est toi qui la rendras parfaite, alléluia, pour le jour de ta venue. Amen. Celui qui commence, c'est celui qui continue. Heureusement que ce n'est pas Dieu qui commence, et il nous dit après, tu te débrouilles, rendez-vous au ciel. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes d'accord? Ça ne vous a pas choqué ce que je dis? C'est bien, merci, ça me rassure. On va parler quelques instants sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il y a des sujets comme ça. Bien que toute la parole de Dieu est merveilleuse, formidable, mais il y a un sujet qui me tient à cœur et dans les temps troublés que nous vivons, où les fondements sont renversés, ce serait bien que ce matin, on mette un peu au point. Bien que j'ai une parfaite quiétude dans mon cœur, je connais la qualité du serviteur de Dieu qui est ici. Il prêche la parole, j'en suis convaincu. Et c'est bien des hommes qui prêchent la parole. Parce qu'au fond, ce que demandent les chrétiens dans nos églises, qu'est-ce qu'ils demandent? Merci. Ils demandent ça. Hein? Prêche la parole, dit Paul à Timothée. Prêche la parole. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole. Et en lisant Ésaïe cette semaine-là, j'ai même vu que Dieu a manifesté son étonnement à l'égard de certains sacrificateurs qui prêchaient des choses dont la pensée n'était même pas venue à la pensée de Dieu, rendez-vous compte. Contentons-nous de prêcher la parole. la parole de Dieu. Alors le service. Le service. Vous voulez bien ouvrir votre Bible, s'il vous plaît. Alléluia. Oh Seigneur, comme tu es bon. Alors, qu'est-ce que nous allons lire là? Dans l'Épître aux Colossiens. Allez, plutôt Thessaloniciens, oui. 1, chapitre 1er, de la première. Voilà. Ah, tu es merveilleux, Seigneur. On raconte à notre sujet. Verset 9, hein? Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu? Convertis à Dieu, c'est important, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant, est vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Allez, on va lire encore un autre verset, s'il vous plaît. Cette fois-ci, c'est dans l'Évangile de Luc. Voilà, un texte merveilleux. Chapitre 1er, verset 69. Dieu nous a suscité un puissant sauveur, alléluia, dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre, alléluia, de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Et verset 74, un sauveur qui nous permet, c'est lui qui nous permet, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, alléluia. Merci Seigneur. Allez, ben, un autre verset. Vous aimez bien quand même lire la Bible, hein? C'est bien. Amen. Chapitre 21 de l'Évangile de Jean. Ah, Seigneur. Verset 17. Deuxième partie du verset. Première. Évangile de Jean, chapitre 21. Jésus dit à Pierre pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Notre désir, Seigneur, c'est de te servir. Et nous tous ici présents, si nous sommes devenus tes enfants, c'est la grâce qui a agi. Et nous sommes tous tes serviteurs et tes servantes. Ce matin, je te prie, aide-moi à rappeler, parce que je n'ai pas la prétention, Seigneur, de leur dire des choses qu'ils ne savent pas, mais de rappeler des choses qu'ils savent certainement. Que l'onction de ton esprit repose sur ton serviteur, maintenant. Ne permets pas que je m'écarte d'aucune manière et que je puisse dire tout simplement ce que tu veux que mes frères entendent de ta part. Au nom de Jésus, amen. Vous l'avez lu, mes frères, nous sommes convertis à Dieu. Alléluia, convertis à Dieu. Et le but de cette conversion à Dieu, objectif, c'est que nous le servions. Alléluia. Que nous le servions. Alléluia. Et que nous l'attendions. Et première pensée que j'aimerais envisager avec vous, c'est que la meilleure manière d'attendre le Seigneur, c'est de le servir. D'accord? Vous ne semblez pas convaincu? Alors je répète, la meilleure manière d'attendre le Seigneur, c'est de le servir. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et pour étayer, parce que en mathématiques, un petit croquis, ça vaut mieux qu'un grand discours, paraît-il. Mais c'est vrai. Et j'observe dans la parole de Dieu que le Seigneur Jésus, le plus merveilleux sauveur, est également le plus merveilleux des prédicateurs, celui dont il est dit, jamais un homme n'a parlé comme lui, se servait souvent des petites choses de la vie, il parlait des brebis, il parlait des portes, il parlait des chemins, il parlait des vieux habits. Plein de trucs comme ça que le Seigneur mettait en avant pour faire comprendre. Eh bien oui, je vais vous raconter une anecdote. Ça pourrait se passer dans cette belle région d'Annecy. Magnifique région. Hein. Vous avez de la chance. Hein. C'est pas si beau que le Vaucluse quand même. Pardon. Alors oui, c'est un homme, comment dirais-je, argenté qui a acheté une propriété dans le coin là. Il a des sous. Il se procure cette grande propriété. Et bien sûr, il embauche un gars. Il lui dit, voilà, le cahier des charges est le suivant. Je te paye pour que tu m'entretiennes cette propriété. Et je compte bien sur toi, mon ami, pour que tu fasses du bon boulot. Je veux les arbres taillés, les pelouses grattées, enfin tout ce qu'il faut, quoi. Et le gars dit, ok, pas de problème. Le salaire était conséquent. Et il a dit, j'accepte. Alors le patron lui dit, je vais partir, je m'absente, je m'en vais dans un pays éloigné, et de temps en temps, je viendrai. Alors le gars dit, ok, pas de problème, il se met au boulot, le patron s'en va, et il travaille. Tous les jours, il est là, 35 heures, enfin un peu plus. Et un jour qu'il est en train de travailler, voilà qu'un touriste passe, il le voit au boulot, il s'étonne, il dit, celui-là, il bosse bien. Il est attentif à son travail. Et quand il a arrêté la tondeuse, il s'approche, il dit, dites-moi, monsieur, vous ne pourriez pas venir ici, j'ai quelques questions à vous poser. Alors il s'avance. Il dit, mais vous êtes le patron ici? Et l'autre dit, non, 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 je ne suis pas le patron, non, non, je suis simplement l'ouvrier. Ah bon? Mais je vous observe là depuis quelque temps, je vois que vous faites bien le travail. Il dit, mais votre patron, il est où? Ah, il dit, je ne sais pas, il est quelque part dans le monde. Et de temps en temps, je le vois venir. Ah bon? Alors le touriste lui dit, mais dis donc, ça fait combien de temps que tu ne l'as pas vu? Alors l'autre, il dit, ben, ça doit faire 4 ans. Ah! L'autre, il a failli tomber son chapeau, il dit, ça fait 4 ans que tu l'as pas vu, et vous travaillez comme ça, de cette manière. Alors, l'ouvrier a enlevé aussi son chapeau, il s'est mis au garde à vous, et il a dit, oui, monsieur, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je l'attends. Alléluia. Tous les jours. Alléluia, ça peut l'air de vous bouger beaucoup. Eh oui. Tu vois, est-ce que nous l'attendons tous les jours? Eh oui. Alors c'est ma prière ce matin, Seigneur, fais que dans le service que tu nous as confié aux uns et aux autres, nous serions là dans cette attente. Il peut revenir ce matin, le Seigneur. Remarquez que pour partir au ciel, au départ d'un culte, c'est quand même pas mal. Alléluia, comme ascenseur. Hein. Que Dieu soit loué. Alléluia, mais oui, le Seigneur peut revenir ce matin. Comme il peut revenir en 50 ans. C'est pas mon problème, c'est le sien. D'abord, j'en sais rien. Finalement, quand est-ce qu'il revient, j'en sais rien. Alors la question est la suivante. Qui sert Dieu? Alors certains vont dire, les plus spirituels, le pasteur. Très bien. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux. Si vous avez cru qu'il n'y a que le pasteur qui sert Dieu, vous vous êtes planté jusqu'au cou. Enfin, jusqu'à ce que tout ce que vous voudrez. Nous sommes tous serviteurs et servantes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église du Seigneur Jésus, c'est un corps. C'est un corps vivant. Alléluia! Dans lequel il y a des membres. Différents les uns des... D'abord, une question. Combien vous avez de membres? Il n'y a personne ici qui peut me dire exactement le nombre. Ce n'est pas un problème, tu en as. Tu en as. Et ce qui est quand même merveilleux, formidable et magnifique, c'est que nous avons tout, hommes ou femmes, ce qu'il faut, là où il faut. Oui ou non? Vous avez pensé quelque part que vous aviez quelque part quelque chose en trop ou en moins? Mais non! Nous avons tout ce qu'il faut, là où il faut. Et la bonne santé, c'est que tous les membres, là où ils sont, ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ils fonctionnent bien. On appelle ça la santé. Et quand il y en a un qui fonctionne mal, eh bien tout le corps s'en ressent, oui ou non? Hein, quand tu as mal aux dents ou ailleurs, c'est tout le corps. Alléluia. Bien, je bénis Dieu. Nous avons tout ce qu'il faut là où il faut. Deux oreilles, deux yeux et une seule langue. Bon, ceci dit, au milieu de son peuple, de façon souveraine, Dieu appelle des hommes. Alors, bien sûr, la question vous brûle peut-être les lèvres, et les femmes. Eh bien, Dieu appelle aussi les femmes. Ah ben ça commence à venir là, voyez-vous. Alléluia, pour certaines raisons, il sait ce qu'il fait le Seigneur. Alléluia, béni soit Dieu. Oui, les femmes sont aussi appelées à servir le Seigneur. Mais là je parle des hommes qui peuvent recevoir, et c'est une grâce que Dieu leur fait. Cet appel pour le ministère, on m'en dit, ça ne crée pas une hiérarchie. Pas du tout. Ça ne crée pas davantage une plus-value, ce n'est pas parce que Dieu un jour m'a permis de répondre à cette vocation. Bien que, comme je me plais à le dire, avant de rentrer dans le service de Dieu, je travaillais déjà pour le ciel, puisque j'ai travaillé à Toulouse dans les constructions des avions, donc je travaillais pour le ciel. Et puis un jour, le Seigneur a dit, mais ce ciel-là, c'est très bien, certainement, ça va te permettre d'avoir une confortable retraite à l'époque. Mais j'ai un autre ciel pour toi. Alors j'ai laissé le ciel des avions pour entrer en formation avec le Seigneur, pour prêcher sa parole. Et je suis heureux qu'il m'ait accordé cette faveur. Alléluia. Je suis heureux qu'il m'ait accordé cette grâce, parce que c'est une grâce, mes frères. Alléluia. Et c'est pourquoi nous pouvons dire ce matin, Seigneur, toi le maître de la moisson, envoie des ouvriers dans la moisson. Selon l'Église n'a pas besoin, ce sont des ouvriers qui s'envoient dans la moisson. Garde-nous de ces ouvriers-là. Mais fais-nous venir des hommes, des jeunes en particulier, qui reçoivent l'onction de Dieu, qui sont visités par le Saint-Esprit. L'appel, c'est quelque chose de formidable. Quelqu'un a dit que l'appel de Dieu, c'est un peu comme être amoureux. Oui ou non? Être amoureux, ça vous tombe dessus comme ça, un coup. Là. Et l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui vous tombe dessus. Ça vient du ciel, alléluia, n'est pas appelé qui veut. C'est pas parce que tu veux que tu le seras. Mais c'est parce que c'est Dieu qui le veut, alléluia. Si c'est Dieu qui le veut, alors tu répondras à l'appel de Dieu pour le service. Il faut de ces hommes qui ont reçu. Je vous ai rien appris. C'est pas mon but. Vous savez ces choses. Maintenant, peut-être que on pourrait examiner assez rapidement quels sont les principes, quelles sont les motivations. Parce que de vous à moi, d'accord ou pas, ce n'est pas le problème, je dis. Parce que je crois que c'est comme ça, c'est ce que déclare la parole de Dieu, c'est que si les services sont diversifiés, ils sont complémentaires. Oui ou non? Bien sûr qu'ils sont complémentaires. Ils sont diversifiés, mais les principes du service sont exactement les mêmes. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de dire amen, hein, monsieur. Si maintenant, à la sortie, vous voulez, on s'attendra et on s'expliquera. Mais je répète, les principes du service sont les mêmes. Alléluia. Amen. Première motivation, nous l'avons lu dans la Bible. C'est Jésus qui s'adresse à Pierre. Pour la troisième fois, il lui pose une question, disons, un peu gênante et il est dit que Pierre est attristé. Mais le Seigneur a bien fait de lui poser la question, est-ce que tu m'aimes? Ah, est-ce que tu m'aimes? Au départ, il lui a dit, est-ce que tu m'aimes plus? Vous savez que le Seigneur est parfaitement informé, hein? Et c'est pas sans raison, parce qu'à un moment donné, Pierre a dit, avec présomption, « Si tous t'abandonnent ici, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Il se prenait pour le meilleur. Et ça, c'est grave. Ne te prends jamais pour le meilleur. Le meilleur, c'est Jésus. Amen. Ne te prends jamais. Ne crois pas que tu es supérieur aux autres. Parce que le Seigneur va te glisser une peau de banane sous les pieds, tu auras vite compris. Non, non, non. On n'est pas plus, on n'est pas mieux. Première motivation, m'aimes-tu? Ah, ça m'enseigne ça. Ça me fait drôlement du bien, alléluia. Et je comprends avec la parole de Dieu, alléluia, que le premier principe du service, c'est d'aimer. Alors, ne nous trompons pas là. D'aimer, oui bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, même tu. Amen. Or voilà mon frère, ma sœur, je suis sûr que tu n'ignores pas ces choses, mais le premier principe, alléluia, la première motivation, ce n'est pas forcément d'aimer les brebis ou les agneaux, mais d'aimer le Seigneur. Que tu aimes les brebis, les agneaux, si Dieu t'appelle au ministère, mais bien évidemment que tu vas les aimer, les brebis, les agneaux, alléluia, surtout ceux d'Annecy, ils le valent bien. Oui ou non? C'est ce que je dis aux jeunes serviteurs, enfin, ceux qui veulent écouter un peu les choses. Les chrétiens dans nos assemblées ne sont pas exigeants, ils vous demandent deux choses, que vous les aimiez et que vous leur prêchiez la parole de Dieu, alléluia, je n'en m'écoute. Mais je crois que le Seigneur va l'aider. Moi, je me rappelle quand j'étais comme lui. Là. Ça me fait tout drôle. Je bénis Dieu. Et je veux l'encourager de tout mon cœur. Merci Seigneur. Alléluia. Bénis nos jeunes qui commencent dans le service. Où aller de ton esprit. Visite-les Seigneur. Communique-leur ta pensée et la capacité de prêcher ta parole. Oui, jeune homme, Dieu vous bénira. Tant que vous resterez humble à ses pieds. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Aimer le Seigneur avant le service. Bien sûr, aimer ce que tu fais pour Dieu. Mais que tu l'aimes, lui, c'est ce qu'il te demande. D'ailleurs, le pasteur ici, vendredi soir, j'ai écouté son message. Il a dit que pour lui, son plus précieux trésor, c'était le Seigneur. Alléluia, alors, on est en pleine harmonie, oui. L'amour. Amen. Viens, répands ton amour dans mon cœur, vis-à-vis de ta personne. Amen. Bien. Alors après. Après. Ah. Alors, il y a un gars fort sympathique dans la Bible qui s'appelle David. Et ce David-là, il a vécu des expériences particulières. Un coup, il était berger. Et Samuel vient dans la maison loin pour qu'il devienne roi. Et il s'en va au palais de Saül. Et il devient premier harpiste. C'est un beau travail, ça. Dans la maison du roi. Mais les temps changent, la guerre éclate. Et voilà que les Philistins envahissent le peuple. Et alors l'armée d'Israël se prépare au combat. Et David quitte le palais du roi et il va à nouveau garder les brebis. Tiens, ça me donne une pensée dans le cœur. David qui pourtant était oint. David qui pourtant avait reçu l'onction d'huile. Et qui savait pertinemment que c'était pour devenir roi. Le voilà tout à nouveau en train de garder les brebis. On pourrait se dire, mais Seigneur, tu t'es pas planté? Tu t'es pas trompé? Comment ça se fait que je suis là en train de garder? Non, Ne sois pas bouillant et impatient, mon frère, ma sœur. Si Dieu t'appelle à quelque chose de particulier, et si tu penses que ça tarde un petit peu, patiente. T'énerve pas. Patient. Dieu n'est pas en retard. Et tandis qu'il est là, en train de garder les brebis de son père au passage. Alors j'aimerais te rappeler, mon frère, ma sœur, que l'œuvre que le Seigneur dans sa bonté te confie, ce n'est pas ton œuvre. Elle ne t'appartient pas. Est-il nécessaire de dire au trésorier de cette assemblée, un homme certainement très respectable, que l'argent qui est déposé dans l'offrande, ce n'est pas son argent? Rassurez-vous, il est bien. Certainement, je ne le connais pas, mais je suis sûr qu'il est bien. Il fait bien le boulot. Il pense pas que... Il fait pas la confusion. C'est l'argent du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Et c'est ainsi pour toutes les œuvres. C'est celle du Seigneur. Il gardait les brebis de son Père. Dans l'œuvre de Dieu, mes frères et sœurs, on n'est jamais à son compte. Jamais. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Et remercie-le de te confier son œuvre. Béni soit l'Éternel. Alors voilà que, tandis qu'il garde les brebis, son père lui rend visite. Ça fait du bien, la visite du père, quand Dieu visite son peuple. Et qu'est-ce qu'il lui dit à son fils David, en train de garder les brebis? Il dit, David, j'ai un service pour toi. Ah, papa, un service pour moi? Oui. Tu sais, tes frères, ils sont sur le champ de bataille. Et alors, j'ai envie d'avoir des nouvelles. À l'époque, le SMS, ça n'existait pas, et les portables non plus. Alors, pour se renseigner, il fallait aller sur place. Et il dit à David, tu vas aller sur place pour voir comment vont tes frères. Tu vas m'en rapporter des nouvelles sûres. Et puis, au passage, tu leur porteras quelques victuailles et puis quelques fromages au chef de milliers. Alors là, j'en connais qui auraient dit, oh, attends papa, je suis appelé à un grand ministère, moi tu sais, un jour j'ai été oint d'huile et je dois devenir le roi, alors si tu as des fromages à porter, dit le vieux, tu peux te les porter tout seul. Non mais sûr, il n'y a personne ici qui a une telle mentalité, oui. Non. Ce qui veut dire, fais pas l'infine bouche et accepte ce que le Seigneur te propose. Il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Accepte ce qu'il te propose et considère que c'est un honneur de servir le Seigneur et que pour servir Dieu, je veux bien les porter les fromages, d'autant plus que je les aime. J'ai commencé au Maroc en 58 avec le serviteur de Dieu Serge Gaillard. Et quand je suis arrivé à Casablanca, il m'a formé pour le service. Il m'a dit, jeune homme, venez voir. Et il m'a aligné les chaises. Alors, j'aurais pu lui dire, dites donc, si c'est pour ça que vous me faites venir, c'était pas la peine, je serais resté à Toulouse. Et il m'a dit, c'est comme ça que j'entends que les chaises soient rangées. Et après, il m'a imprimé 50 000 prospectus à distribuer dans Casablanca et Rabat. 50 000. Je n'ai pas discuté. Je pense que c'était un test aussi. Il y a des moments où le Seigneur nous fait passer quelques tests. Accepte ce qu'il te propose. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et ce qui est merveilleux, c'est que David s'est soumis. Et il est parti, comme son père le lui avait demandé. Tu sais, sur le chemin de l'obéissance, il y a toujours la bénédiction. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne t'expliques pas les raisons, tu fais ce qu'il t'est demandé de faire. On appelle ça l'obéissance. Et je dis ce matin, bien humblement, au milieu de vous, il n'y a pas de place pour le service de Dieu, pour les gens qui refusent d'obéir. S'il y a ici quelques têtes dures, mes frères, demandez à Dieu qu'il ait pitié de vous. Et rappelez-vous d'une chose, c'est que le Seigneur Jésus, dans le service pour Dieu, il s'est rendu obéissant, alléluia, jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Alors si lui s'est rendu, et il est même précisé ce qui nous étonne, il a appris l'obéissance. Et c'est parfois par de petits tests comme ça qu'on apprend l'obéissance. Maintenant, ça ne veut pas dire que les chrétiens dans les églises, ils ont à se mettre toujours au garde à vous et qu'ils n'ont pas de questions à poser, mais bien sûr que si. Et les pasteurs sont disponibles pour les écouter. Alors peut-être quelqu'un dira, ça dépend lesquels. Ben, s'ils ne le font pas, ils ont tort. Pourquoi je dis ça? Parce qu'un jour, dans l'église primitive, il s'est passé un truc. Certains frères sont venus trouver les apôtres, les hellénistes, là. Hein? Et ils ont dit aux apôtres, c'est pas normal, la gestion n'est pas bonne, nos veuves sont négligées. Alors on aurait pu leur dire, les apôtres, eh, oh, ici l'autorité c'est nous et vous n'avez rien à dire. Mais on ne règle pas les problèmes en fermant la bouche aux gens. C'est un tort de le croire. Ça ne doit pas se passer comme ça. Donc les apôtres ont compris qu'il y avait un problème. Ils se sont réunis. Ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu. Et Dieu les a rendus intelligents. Ils ont compris que le problème, c'était eux. Tiens donc, parfois les pasteurs peuvent être le problème, mais ce qui est merveilleux, c'est que non seulement ils ont été le problème et ils l'ont compris, mais ils ont été aussi la réponse au problème. Alléluia. Et voilà ce qu'ils ont dit. Nous, on a été appelés pour prêcher, pour prier, visiter les malades, et le service aux tables, on va désigner. Vous allez désigner. Et on n'a plus entendu personne. À l'unanimité, béni soit Dieu. Moi, je trouve que ça, c'est formidable. C'est merveilleux. Alors, bien sûr, il ne faut pas toujours être en train de l'ouvrir. Parce qu'il y a des gens, ils sont aucun problème pour ça. Ils ouvrent très facilement. Mais il faut surtout faire attention à ceux qui ne l'ouvrent jamais, et qui pour un coup l'ouvre. Alors peut-être que cela, on peut essayer. Mais bon. Ça va, oui, ou... Vous n'êtes pas tombé de la chaise encore, ça? Non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous me le dites, je suis disponible. Où est-ce que j'en étais, là? Soumission. Ah ouais. La soumission. Et puis voilà que David arrive sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'il entend? Il entend le Goliath. Ça, c'est pas terrible. Mais il entend aussi quelqu'un qui dit, celui qui va tuer Goliath, on va lui donner la fille du roi en mariage. C'est quand même pas mal. Bien que c'était peut-être pas un cadeau, la fille du roi, là. Ah, c'est sûr. Oui. Alors, il y en a quelques-uns qui, bien sûr, se seraient laissés aller. Oh, 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 qu'est-ce que je ne ferais pas pour épouser la fille du roi, dis donc, tu racontes ? Pas de problème de fin de mois, la retraite non plus. C'est, ça vaut le coup, quoi. Mais David n'a pas bondi de joie. Hein. Ça n'a pas semblé l'ébranler. Béni soit Dieu. Il s'est détourné de cette proposition. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Ce qui veut dire qu'il n'était pas là. Par intérêt. Ça, c'est important, ça. Qu'est-ce que ça rapporte de servir Dieu? Hein? Ben, si vous voulez faire des sous, c'est pas dans le ministère qu'il faut rentrer. Hein. Eh non. Bien que Dieu, dans son amour, il pourvoit. Eh oui, je voudrais pas vous faire peine, mais et je suis pas le seul. De ma génération. Quand on s'est marié, on a vécu quelque temps dans une cave. Sans lumière. Même l'assistance sociale, elle s'est effrayée de nous voir là. C'est comme ça. Et là, qu'on passait beaucoup plus de privations. Puis Dieu a un peu amélioré les choses au fur du temps. On est heureux de servir le Seigneur. Pas pas par intérêt. Bien que c'est quand même merveilleux, et je dis ce matin devant vous, merci Seigneur. Tu es vraiment fidèle. Tu es vraiment fidèle. Tu as permis qu'on ait la vie, la respiration, de quoi manger, une maison pour s'abriter. Merci. Bien. Là maintenant, je vous demande d'ouvrir vos oreilles. Bien qu'elles soient, je pense, très ouvertes. Mais est-ce que vous savez quelque chose de la gestion des conflits? Bien que dans les assemblées de Dieu, nos frères et sœurs, nous dans la famille, il n'y a jamais de problème. Si, si. De temps en temps, les brebis, elles se frottent un peu. Ouais. Eh bien, David a été confronté à une gestion de conflits. Et la manière dont il est passé à travers nous inspire. Et écoute bien. Voilà que le Éliab, celui dont Samuel voulait faire le roi, heureusement qu'il s'est planté ce coup-là. Comme quoi, dans les changements et les désignations, parfois même les vieux, ils peuvent se tromper. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on a tort, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on a raison. Samuel voulait faire d'Éliab, quand il l'a vu, il a dit « c'est lui ». Mais Dieu lui a dit « c'est pas lui ». C'est particulier quand Dieu nous contrarie. Et quand il vient nous dire « non, ce choix que tu as fait, c'est pas le bon ». Et nous, nous voudrions toujours que dans nos choix de serviteurs de Dieu, de changement, ce soit toujours le choix de Dieu. Et nous sommes parfois obligés de reconnaître que ça n'a pas été le cas. Heureusement que Dieu, dans sa grâce, a rétabli les choses. Heureusement. Alors Éliab, il voit le David et il lui dit, espèce de petit orgueilleux, d'où tu sors? Qu'est-ce que tu es venu faire? Vous vous rendez compte? Vous voulez faire de ce gars un roi? Avec une telle mentalité? Mais heureusement qu'il n'est pas devenu roi celui-là. Heureusement. Je répète, espèce de petit orgueilleux, c'est pour voir la guerre que tu es venu. Qu'est-ce que tu as fait des brebis? Enfin, il est en train de lui tailler un costume, il l'habille pour l'hiver, oui. Ben oui. Et il a failli être roi. Et c'est là que je vois David. Vous savez, David, de temps en temps, il se mesurait avec les ours, les lions, et ils n'avaient plus de problème après. Pas lui, mais les lions. Il les arrangeait comme il faut. Et je suis convaincu que David aurait certainement pu s'arranger avec son frangin et lui faire quelques massages particuliers, vous voyez. Mais il lui a simplement dit ceci, « Pourquoi me parles-tu ainsi ?» Et il s'est détourné de lui. Alors j'aimerais te dire que si David s'était affronté à son frère là, et il pouvait le faire, et il y a des moments où ça vous monte là, vous savez, c'est enfin tout quoi. Et on se dit, « Calme-moi Seigneur, parce que je sens que... » Mais David sait qu'il a reçu un appel. Il sait qu'il a reçu un appel. Et il ne veut permettre à rien, ni à personne, de lui enlever cette perspective. Il y a des moments, mon frère, ma sœur, où se retirer, ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est du courage. J'en veux pour preuve... Quand la femme de Potiphar est venue trouver Joseph avec cette proposition, couche avec moi, dis donc, rendez compte. Quand les femmes se mettent à faire du harcèlement sexuel, c'est pas triste. Hein. Eh oui, c'est pas que les hommes, la preuve. Et il y en a d'autres qui auraient dit, bon, puisque c'est elle qui propose, après tout, pourquoi pas? Mais il a dit non! Alors elle est revenue à la charge, quelque temps plus tard, elle lui a fait la même proposition, couche avec moi. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est échappé. il est parti. C'est pas de la lâcheté, c'est du courage. Ça lui a coûté quelques années de prison. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. David va passer cette épreuve. Fais très attention, mon frère, ma sœur. Si Dieu t'a confié quelque chose, ou s'il est en train de te confier quelque chose, ne te laisse pas arrêter par une gestion de conflit. Demande à Dieu la force, la grâce. Pratique le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pratique le pardon. Que Dieu t'aide, je sais que ce n'est pas toujours facile. Qu'il y a des situations où il faut vraiment la grâce de Dieu. Mais fais-le. Et puis David va passer au vestiaire de Saül. Vous connaissez la suite. Il va sortir de là comme un épouvantail dans un champ de luzerne. Il n'a rien. Et je dis ceci ce matin, les hommes, l'entourage, l'environnement n'a rien pour te donner. Peut-être quelques outils et encore. Alors David va sortir, il va se laisser dépouiller de ce casque, de cette lance et tout ça. Et il va descendre au torrent, et là il va prendre 5 pierres. Et dans la parole de Dieu, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et je suis sûr que là, c'est David qui exprime sa prière. Fais-moi grâce, Seigneur. Parce que David, il voit le géant, et il se dit bien dans son cœur, j'ai étranglé l'ours, j'ai tué le lion, mais fais-moi grâce pour lui là-bas. Parce que si tu ne me fais pas grâce, c'est certainement lui qui aura ma peau. Fais-moi grâce. Tu as besoin de la grâce. Même si tu sers le Seigneur depuis 50 ans, tu as besoin de sa grâce. Tu auras toujours besoin de sa grâce. Jusqu'à l'enlèvement, tu auras besoin de sa grâce. Alléluia. Alors béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Et voilà l'affrontement. Aux dernières nouvelles, ce n'est pas Goliath qui a tué David. C'est David qui a tué Goliath. Béni soit l'Éternel. C'est quand même merveilleux. Il lui a coupé le cou. J'ai presque fini. C'est beau cette victoire. David, avec l'épée de Saül, lui coupe le cou, raccourci. Et le voilà maintenant devant Saül. Alors, je ne voudrais pas que ça vous enlève le goût de manger à midi. Voyez. Mais regardez bien la scène. David se présente devant Saül. Il a la tête de Goliath. Ah oui. Et, chose étonnante, Saül s'interroge et il se dit, mais c'est qui ce jeune? Alors il dit, Abner, renseigne-toi, dis-moi qui c'est. Et on fait venir David, la tête de Goliath à la main. Ça gouline le sang, c'est un peu macabre. Mais, c'est important. Alors on dit, David, dis-moi, de qui tu es le fils? Et qu'est-ce qu'il répond, David? Alors peut-être qu'avant de répondre, il aurait pu dire à Saül, dis-moi, hein? Tu as vu? Alors maintenant, à cause de cette tête-là, tu vas me donner le ministère des armées, la défense nationale, la police, le budget et les affaires étrangères. Tu débarques, Abner, je prends sa place. On aurait dit de lui, c'est un gros orgueilleux. Mais il se prend pour qui? Non. David est un homme selon le cœur de Dieu. Et tout au long de cette étape que nous venons d'imager, et sur lesquelles il y a une formidable pensée de Dieu, alléluia, il garde ce qu'on appelle l'humilité. Parce que j'en connais qui, pour moins que ça, auraient fait au moins 15 articles sur Pentecôte, auraient fait un CD. Eh ben oui. Que voulez-vous, mon bon monsieur? Mais il dit, je ne suis que le fils de ton serviteur, Isaïe. Voilà, mes frères. Voilà quelque chose d'incontournable. Et que ce matin, cela puisse nous inspirer. Même si Dieu te fait la grâce d'avoir un succès pas possible, tu ne seras jamais que. Et le jour où tu penses que tu es devenu quelqu'un ou quelque chose, tu n'as plus rien compris, mon ami. Et je suis convaincu qu'à partir de ce moment-là, Dieu ne se servira plus de toi, parce que Dieu a en horreur l'orgueil. Il ne peut pas supporter ça. Il ne peut pas supporter ça. Et du moment que ce que nous faisons, c'est Dieu qui permet que nous le fassions, c'est à lui qu'appartient, au siècle des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Que Dieu soit béni. Et quand nous arriverons au ciel, alléluia, nous ne dirons pas « Je suis heureux d'être ici parce que j'ai fait », mais nous sommes heureux d'être ici parce que tu as accompli. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Et que ces quelques rappels ce matin, je me les rappelle aussi pour moi. Que Dieu nous fasse grâce pour le servir, pour bien le servir, selon les principes qui sont établis, qui sont certainement en contradiction avec la mentalité ambiante. Mais nous ne sommes plus du monde, nous. Nous sommes devenus des enfants de Dieu, avec un cœur changé. C'est pourquoi vous avez compris que ces choses sont importantes et que vous ferez, vous, peut-être, je veux croire, que jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai dit là, vous dites, mais je l'ai fait de tout mon cœur. Ben, continuez. Alléluia. Continuez. Et si peut-être vous aviez d'autres pensées, alignez-vous sur la parole, parce que c'est elle, la vérité. Que Dieu soit béni. Père Céleste,